Bonsoir Week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les voici, les grandes voix d'Europe 1 en débat jusqu'à 19h. Avec nous ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique, Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil, François Claus, grand reporter à Europe 1, rédacteur en chef sur notre antenne. Bonsoir à tous les trois. Et bienvenue. Alors que la France est en Europe le pays qui compte le plus de cas de Covid, le frémissement dans les chiffres soulignés par Olivier Véran, on en reparlera. L'hypothèse d'un reconfinement des plus âgés écartée par Gabriel Attal ce matin. Quel scénario pour demain alors que certains syndicats enseignants appellent mardi à la grève sanitaire? On vous expliquera. Nous reviendrons évidemment sur l'émotion nationale et internationale après l'élection de Joe Biden hier et sur la mission confiée par Emmanuel Macron à Gérald Darmanin dans la lutte antiterroriste. Il est sur le terrain étranger, au Maghreb en particulier. Il a visité également l'Italie, Malte, mais il était aujourd'hui en Algérie après le Maroc et la Tunisie. La Tunisie qui accepte le retour des ressortissants radicalisés. Mais d'abord, si vous voulez bien, 18h34, les coups de cœur et coups de gueule de nos débatteurs.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Et pour ceux qui étaient avec nous hier soir, spéciale élection américaine qui nous a empêchés d'entendre l'hommage qui tenait à cœur, au cœur de Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors vous êtes là simplement le temps de ce coup de cœur ce soir. Une fois n'est pas coutume, mais vous vouliez honorer, saluer un grand artiste que je vous propose d'avoir d'écouter.
Je pense que je n'ai pas du tout senti le temps passer. Je suis comme au premier jour, exactement comme au premier jour. J'ai autant peur et en même temps, j'ai autant envie.
Michel Bouquet en 2016 sur Europe 1 avec Nikos Aliagas. C'est votre coup de cœur, Frédéric Dabi.
Oui, chère Wendy, j'ai eu envie de donner un coup de cœur à Michel Bouquet. Hein. Cet immense acteur de cinéma et de théâtre a fêté vendredi 6 novembre ses 95 ans. Il est né quelques semaines avant Michel Piccoli, qui lui était décédé au printemps dernier. Il est bien sûr impossible à travers quelques mots de rendre compte de la carrière, de la personnalité de Michel Bouquet. Je retiendrai deux aspects et un sentiment. D'abord, premier aspect, sa longévité. Hein. Michel Bouquet était sur les planches dès l'après-guerre, jouait encore récemment Le Roi Semeur de Gene Ionesco, ou À tort ou à raison, où il interprétait en 2016, je crois, un Willem Furtwängler saisissant. Et en retraite désormais pour le théâtre, Michel Bouquet continue à tourner pour le cinéma. Son dernier film, Villa Caprice, devait sortir fin novembre. Le confinement en a décidé ainsi. Deuxième aspect que je voulais mettre en avant, il y est bien sûr au cinéma, et la capacité de Michel Bouquet à endosser des rôles et à les rendre inoubliables, quel que soit le registre. Je pense à François Mitterrand dans Le Promeneur du Champ de Mars, un film sur le crépuscule de l'ancien président. Au milliardaire, c'est un registre plus comique, Rambalcochet dans Le Jouet de Francis Weber, ou au terrifiant Javert dans l'adaptation de Robert Hossein des Misérables. Et puis aujourd'hui, Wendy, ça tombe pas si mal que je parle sur votre antenne. On est le 8 novembre, c'est également les 85 ans d'un monstre sacré du cinéma, Alain Delon. Et ils avaient joué ensemble dans Deux hommes dans la ville de Giovanni, où Michel Bouquet jouait un véritable salaud, un flic qui s'appelait Guattreau, qui a poussé Alain Delon au meurtre et plus tard à la guillotine. Et pour finir, il y a aussi un sentiment empreint de nostalgie. Arte a récemment diffusé La mariée était en noir, dans lequel joue Michel Bouquet. De tous les rôles principaux de ce film, Charles Denner, Jean-Claude Brialy, Michael Lonsdale, Claude Rich et Jeanne Moreau, seul Michel Bouquet n'a aujourd'hui pas quitté l'écran.
Eh bien voilà, de la culture et cet hommage en ces temps confinés, tout cela nous fait du bien, Frédéric Dabi. Merci voilà, pour cet hommage à Michel Bouquet que l'on retient ce soir. C'est 95 ans fêté ce 6 novembre. Merci Frédéric. Laetitia Krupa, c'est un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, pour Emmanuel Macron.
Eh oui, il faut changer. Hein. Il n'y a que les idiots, je crois, qui ne changent pas d'avis. Alors, un coup de cœur pour sa lettre au Financial Times, qui est le journal britannique, le quotidien britannique, qui est deux jours avant avait publié un édito à charge contre la politique du gouvernement, notamment sur le futur projet de loi contre les séparatismes, en accusant la France de stigmatiser tout simplement les musulmans dans leur ensemble. Alors la réponse d'Emmanuel Macron est sans concession. Je vous rappelle que trois jours avant, il avait répondu aussi sur Al Jazeera pour s'adresser aux musulmans dans le monde, on va dire, hein, parce que c'est un petit peu la tâche d'Emmanuel Macron, c'est justifier et expliquer encore une fois ce qu'il veut faire en France avec cette loi contre le séparatisme. Et ça a été très clair, je ne laisserai jamais personne affirmer que la France, son État, cultive le racisme vis-à-vis des musulmans. La France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam. Et il donne l'exemple dans cette lettre de certains quartiers où l'on pourrait voir des petites filles de 3-4 ans entièrement voilées. Alors c'est courageux de la part du chef de l'État parce que vous savez, Wendy, et je l'avais dit déjà à ce micro, que la presse anglo-saxonne a un traitement quelque peu étrange, on va dire, de la menace
très
islamiste.
Très distancié, on va dire. Hein. Ouais. Voilà. Qui ne dit pas les mots.
À la limite de la désinformation. Ouais. Rappelez-vous, après l'assassinat de Samuel Paty, certains articles étaient vraiment... c'était de la désinformation pure. J'avais eu l'occasion d'en parler. Alors là, je me dis que c'est courageux, c'est bien, on commence, le chemin est long. Et puis, patatras, deux jours après, je lis sur le site d'un autre journal, The Independent, un journal aussi britannique, un papier où le correspondant à Paris interview des personnes qui se présentent comme combattantes contre l'islamophobie et qui accusent Emmanuel Macron de fake news, notamment au sujet de ces petites filles qui seraient voilées entièrement dans les quartiers. Donc, vous avez vu, Wendy, comme la tâche est ardue. Oui. Vous avez vu que malgré une lettre, alors je rappelle que la tribune en question avait été retirée du site et que c'était la lettre d'Emmanuel Macron qui avait pris sa place. Mais malgré tout, deux jours plus tard, on va voir encore une fois, et dans ce papier qui est en cause, on va voir par exemple l'ancien président du CCIF dont on a demandé la dissolution. Oui. Donc, vous voyez, c'est compliqué de mener ce combat par médias interposés. C'est un pari d'Emmanuel Macron. Il y a un autre site aussi que personne n'a vraiment retenu, Politico, qui est un site américain, mais la version européenne avait aussi écrit une tribune, laissé passer une tribune, publié une tribune qui allait exactement dans le même sens, disant que la France stigmatisait les musulmans. Oui. Donc, il faut se battre pied par pied, et avec les armes de la personne qui est en face et qui critique cette police.
Ce qui donne du sens, d'ailleurs on peut en parler maintenant, peut-être François Claus, à la mission qu'a confiée Emmanuel Macron à Gérald Darmanin, mission de lutte antiterroriste sur les terrains étrangers et amis du Maroc à l'Algérie, en passant par la Tunisie. Il faut aller convaincre, aller porter le même dialogue, la même politique, notamment sur la lutte contre les fichiers radicalisés, sur ces terrains étrangers et voisins.
Oui, il est clair. Et d'ailleurs, le voyage de Gérald Darmanin sera prolongé par celui de Jean-Yves Le Drian, qui dès demain arrive au Maroc. Oui. La France a été très énervée, c'est le moins qu'on puisse dire, par la grande mollesse du soutien que les pays arabes auraient pu apporter au lendemain des attentats, que ce soit celui de Conflans-Sainte-Honorine ou de Nice, notamment ces pays comme le Maroc, qui incarnent ce qu'on appelle l'islam du milieu, qui se sont plus insurgés contre les propos sur le séparatisme que formuler leur émotion sur les attentats lui-même. Après, c'est un dossier extrêmement complexe que Gérald Darmanin, pour le moment, a mis dans sa valise en Tunisie et aujourd'hui en Algérie, et que Jean-Yves Le Drian portera demain. Il est très difficile aujourd'hui de procéder à des expulsions, car les délits entre les deux pays ne sont pas forcément les mêmes. Il y a malgré tout une liste de 231 radicalisés S et qui sont en situation régulière au pays. 60 d'entre eux proviendraient de Tunisie, 60 d'Algérie, une soixantaine du Maroc. Et il faut pour cela un laissez-passer consulaire pour que le pays puisse les accueillir, parce que fiché S ne veut pas dire qu'ils peuvent être poursuivis judiciairement dans leur pays de départ. Oui, et c'est cette mission diplomatique et politique que, pour le moment, avec beaucoup de courage, il faut le dire, le gouvernement français entame.
Oui, au cœur d'une réflexion aussi sur le pacte migratoire qui sera étudié au niveau européen, Philippe Moreau-Chevrolet. Et voilà pourquoi aussi cet envoi du ministre de l'Intérieur sur ces terrains étrangers a du sens.
Oui, absolument. Il y a une nécessité que l'Europe se remette à exister, puisqu'elle est quand même assez inexistante depuis un long moment, à la fois sur le terrain des réfugiés, sur le terrain du terrorisme, sur le terrain sanitaire. Donc on cherche l'Europe en ce moment et on la trouve pas forcément. Donc ça a beaucoup de sens dans cette période. Moi, j'avais un coup de cœur pour un coup de gueule, en réalité. Oui. Je ne sais pas si on peut l'écouter, mais c'était le coup de gueule d'Olivier Véran cette semaine à l'Assemblée nationale.
On va l'écouter.
Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans. De 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux.
Oui. Oui, alors, on a reproché à Olivier Véran ce coup de gueule en disant un homme politique doit être maître de ses nerfs, il ne faut pas se mettre en colère comme ça. En gros, on a reproché à Olivier Véran de s'être laissé déborder par les émotions. Alors moi, je trouve que ces émotions étaient assez légitimes et je comprends cette colère parce que ça fait à peu près 3 mois qu'Olivier Véran essaie de convaincre des crétins, hein. Désolé, j'ai pas d'expression plus élégante, mais jusque dans son propre camp, que la deuxième vague va arriver et qu'il faut se préparer à la combattre. Il fait ça nuit et jour, c'est l'un des seuls à être vraiment mobilisé. Et il s'est retrouvé face à un piège de l'opposition qui était particulièrement enfantin, puisque l'opposition a réquisitionné tout le restaurant de l'Assemblée nationale, ce qui a forcé les députés LREM à dîner chez eux, ce qui a permis à l'opposition de voter contre une disposition proposée par LREM sur la prolongation de l'état sanitaire, ce qui a mis le gouvernement en difficulté, ce qui a obligé Olivier Véran à revenir au Parlement. Enfin, tout ça est ridicule et on comprend la colère parce que on a une période au fond où maintenant il est trop tard.
On n'a pas
de temps
à perdre.
Qu'on a prévenu.
Bien sûr. Ouais.
Et maintenant, ça, c'est trop tard en fait en réalité. Donc la colère, elle est assez légitime et c'est une colère qui sort. Et moi, je trouve ça bien que des hommes politiques expriment leurs émotions. Hier soir, on a eu le conseiller d'Obama, hein, Van Jones, qui était sur CNN et qui a été au bord des larmes en apprenant la nouvelle de l'élection de Joe Biden, avec des mots forts en disant maintenant, c'est plus facile d'être un papa aujourd'hui. Parce qu'on va pouvoir dire à son fils qu'il faut dire la vérité et que ça a du sens. Parce qu'on va pouvoir dire à son fils qu'être une personne bien, ça permet de réussir dans la vie et c'est important. En fait, c'est vrai que c'est de l'émotion et c'est vrai qu'on peut se dire, oulala, tout ce déballage, tout ce pathos est pas nécessaire. Eh bien, si, il est nécessaire et puis il est sain dans une démocratie que des émotions s'expriment. Sinon, on est dirigé par des Robocop et ça produit pas des très bons effets. Notamment, la population ne peut pas se reconnaître dans des gens qui n'ont pas d'émotion, qui n'ont pas de ressenti.
Qu'en pensez-vous?
Et puis, on se retrouve surtout face à des populistes comme Trump qui, eux, vont savoir les utiliser d'une manière déviante et perverse. Et
complètement. Qu'en pensez-vous, Laetitia Crepa, de cette gouvernance aux émotions telle que, aujourd'hui, la compulsé en deux exemples par Philippe Rochevrolet.
Moi, je suis d'accord avec Philippe. Quand c'est authentique et sincère, la colère, effectivement, est légitime. Celle d'Olivier Véran était légitime. Le problème dans cette sortie du ministre de la Santé, c'est le sous-texte. C'est-à-dire que je comprends qu'on soit en pleine crise, qu'il porte ce combat depuis 2 mois, que le gouvernement est sous tension, pas uniquement pour la crise sanitaire, on sait aussi la menace terroriste. On est au cœur, dans un nœud de crise. C'est très difficile à supporter. Mais quand il dit « sortez d'ici » et qu'il confisque le débat, et c'est un peu, il me semble... Pardon Philippe, je sais que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais le biais d'Olivier Véran. C'est-à-dire que sa politique est la seule, et c'est la seule solution. On peut aussi peut-être ouvrir le débat, circonscancier, argumenté, contextualisé, avec d'autres personnes qui n'auraient pas
On va y revenir.
Répondez à ça et on y reviendra
avec d'autres hypothèses, hein, comme le confinement ciblé. Allez-y.
Je voudrais juste répondre à ça parce que c'est important. C'est tout à fait vrai. En fait, il faudrait un débat au Parlement sur le confinement, qui est la mesure la plus stupide qu'on puisse imaginer au plan sanitaire. Seulement, ça fait quand même des semaines, hein, que le ministre prévient. Ça fait des semaines que l'opposition pourrait faire des propositions sanitaires différentes de celles du gouvernement. Ce serait bien, parce qu'on voit bien que la politique sanitaire du gouvernement, elle n'est pas cohérente, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas bien communiquée. Donc ce serait bien que l'opposition propose des choses. Moi, j'ai eu des déjeuners avec des leaders de l'opposition où on a évoqué ça. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour proposer des choses? On ne les voit pas venir. Donc l'opposition, à un moment donné, il faut bien qu'elle propose des choses constructives et qu'on essaie d'avancer ensemble dans cette crise sanitaire. Mais piéger la majorité sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire, alors qu'on est en train d'installer des camions frigorifiques à Marseille, je suis désolé, mais c'est la réalité, des camions frigo à Marseille parce que les morgues sont débordées, c'est dérisoire. Et je comprends sa colère, parce que lui, il doit se coltiner avec la réalité. Il faudrait que l'opposition se coltine aussi avec la réalité, qu'elle fasse des propositions. Alors, moi, je suis le premier à être d'accord.
Philippe, bonjour. Je vous laisse la parole juste après. On fait une petite pause parce que je voudrais aussi qu'on entende François Claus sur ce sujet-là. Et puis, on reprendra un exemple précis, notamment cette hypothèse d'un confinement ciblé écarté de nouveau par Gabriel Attal ce matin pour les plus de 65 ans. A tout de suite, le débat des Grandes Voix revient.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les Grandes Voix.
Les grandes voix d'Europe 1 en débat jusqu'à 19h. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, François Claus avec nous et la politique sanitaire au cœur aussi de notre actualité. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce confinement plus léger dont certains ont bien vu justement qu'il n'était pas forcément totalement efficace sur le terrain. Quoique, Olivier Véran note une forme de ralentissement de l'épidémie et qu'on fera les comptes la semaine prochaine pour ses premiers effets. Les chiffres sont très clairs, cela dit François Claus. Les Français se déplacent actuellement 2 à 3 fois plus que pendant le premier confinement. Le télétravail est très loin d'être la norme. Dans le TER, on a un trafic équivalent à 1/3 de la normale contre 2% au printemps dernier. Voilà, je vous donne quelques exemples, mais dans ces conditions, on se demande est-ce que ça peut marcher, ou assez efficacement en tout cas, pour être libéré de ce virus assez tôt.
Je redoute que le « en même temps » qui est déjà en difficulté politique le soit également en difficulté sur le plan de la gestion de l'épidémie, et que de vouloir à la fois sauver des vies et sauver l'économie est un pari quasi impossible. Pour rebondir sur le débat également qu'il y avait à l'instant même, c'est vrai que c'est plus facile d'être dans l'opposition aujourd'hui que d'être dans la gestion des affaires. Mais néanmoins, quel échec, notamment sur cette question d'un confinement beaucoup plus ciblé, qui aurait peut-être été beaucoup plus efficace, mais sur lequel aujourd'hui, et on comprend les propos de Gabriel Attal qui dit que c'est quasiment impossible, même si ce scénario a été évoqué à un moment, pourquoi ne pas protéger les plus vulnérables au lieu de confiner aujourd'hui les jeunes et les actifs pour protéger ces plus vulnérables? Est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire l'inverse? C'est éthiquement compliqué, c'est discriminatoire. On va pas dire à une personne de plus de 65 ans, tu n'as plus le droit de sortir. Mais on savait dès la première vague que plus de la moitié des lits de réanimation dans les hôpitaux, et c'est bien ça aujourd'hui le problème, étaient occupés par des personnes qui avaient plus de 71 ans. Pourquoi est-ce que pendant les 3 mois entre la première et la deuxième vague, on n'a pas préparé justement un dispositif de protection? Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui on va durcir le confinement. Il fallait à ce moment-là utiliser, on le sait parfaitement, le biais des maires, le biais de la sécurité sociale, de lancer des messages ciblés vers ces personnes-là, de préparer leur vie en mettant de l'accompagnement quand il y en avait besoin.
Parce que ces personnes-là ne vivent pas dans une bulle, c'est bien ce que dit aussi le ministre de la Santé.
Maintenant c'est trop tard, parce qu'on ne peut plus y aller, et pourtant c'était une solution qui aurait permis peut-être d'éviter cette deuxième vague. Oui. Alors peut-être préparons-la pour la troisième des
vacances. Trop tard, ils y font sa clause, Laetitia et Philippe, je crois que vous êtes très...
Tout à fait d'accord avec François. Vous dites, oui, mais ces personnes ne vivent pas dans une bulle. Oui, d'accord, Wendy, mais enfin, si vous avez les gestes barrières, le masque, la distance, etc.,
mais
normalement...
Il y a le contre-exemple des EHPAD, malheureusement. La moitié des décès en EHPAD aujourd'hui.
Oui, mais peut-être que ça présuppose que les gens n'ont pas les bons gestes barrières et ne font pas attention et n'ont pas les bonnes mesures. Voilà, parce que, bref, ça c'est un autre débat.
Non, mais c'est un débat intéressant parce que, manifestement, le protocole sanitaire reste extrêmement rigoureux dans les EHPAD. Et pourtant, il y a ces contaminations en cascade.
Eh bien, je rebondis sur ce que vient de dire François. Effectivement, pour la troisième vague, s'il y en a une, en tout cas pour la phase de déconfinement. Parce que là, on est en plein confinement. Donnons un peu d'espoir. À un moment ou un autre, on va déconfiner à nouveau. Je lisais dans le journal du dimanche Didier Petit, vous savez, qui est chargé par Emmanuel Macron, notamment d'analyser la première vague. Il nous dit, bien sûr que c'est trop tard, ce confinement ciblé des plus vulnérables. Mais cette stratégie pourrait être envisagée quand l'épidémie sera sous meilleur contrôle. Et là, c'est une autre discussion, dit-il, pour l'avenir. Donc, dans la phase de déconfinement, peut-être que pour réussir cette fois le déconfinement, il faudra demander aux plus vulnérables,
Philippe
et de cibler dans ces cas-là, ces personnes-là, de faire davantage attention et de rester confinés.
Je rêverais que ça fonctionne. C'est pas ce que nous disent les médecins et les épidémiologistes, parce que effectivement, ils vivent pas dans une bulle, et même avec des gestes barrières, même avec des moyens de protection, en fait, on finit par les contaminer. C'est ce qu'on observe dans tous les pays du monde. Il y a aucun cas où le confinement sélectif a fonctionné. Et puis, par ailleurs, il y a quelque chose dont le gouvernement ne parle pas. Il ferait bien d'en parler plus. Il en a parlé un peu. C'est ce qu'on appelle le Covid chronique, le Covid long, et ça touche, on estime, entre 10 à 15%, c'est les chiffres français. Les Britanniques sont un peu plus optimistes, ils parlent de 10% des jeunes, en fait, des jeunes malades, y compris ceux qui ont été asymptomatiques au début. Et ce qui fait qu'on hésite beaucoup à aller vers une stratégie de l'immunité collective aussi, il y a le fait que les hôpitaux soient débordés, mais il y a aussi le fait que 10 à 15% de malades chroniques qui vont être malades lourdement pendant des mois avec des séquelles pulmonaires, cardiaques, des invalidités. La directrice de l'école où sont mes enfants, elle n'a pas pu travailler pendant 6 mois et demi. elle était clouée au lit, hein, donc c'est, on parle vraiment de maladie invalidante. C'est ça aussi qui fait que ben, confiner les vieux et les fragiles, déjà, honnêtement, ils le font, hein, ils ne sont pas suicidaires. Et puis leur dire ça comme ça, je crains que ça provoque un effet de réaction inverse, c'est-à-dire que les gens se disent « vous n'avez pas le droit de me discriminer ».
C'est pour les
dans la culture française, c'est on n'a pas de discrimination sur la personne.
François-Claude.
D'une certaine manière, c'est pas forcément les confiner, comme on est en train de le dire, de mettre des interdictions, mais c'est de lancer le message de prévention, mais à la fois à l'ensemble de la population, sur la manière de vivre avec ces personnes de plus de 65 ans. Et ça, ça n'a absolument pas été fait, ou pas suffisamment. On est parti sur un confinement uniforme qui aujourd'hui montre ses limites. Et comme on n'est pas capable de tracer et isoler aujourd'hui, ça aurait été une solution qui aurait permis en tout cas de soulager les hôpitaux.
Alors à la décharge du gouvernement, on a eu les spots quand même de communication, juste un petit mot, hein, des grands-parents recevant leurs enfants avec des masques à la maison.
Après, il y a toujours la difficulté de contrôler quand dans les foyers privés, c'est impossible de contrôler.
Le sens civique aussi, Philippe Mourgeois.
Oui, non, juste, moi je trouve que le confinement, c'est la mesure la plus barbare, la plus moyenâgeuse et la plus stupide du monde. Donc on est tous bien d'accord qu'il ne faut pas confiner et qu'il faut trouver des moyens d'éviter que l'ensemble de la population se retrouve clouée chez elle. Ça tue tout le monde, ça tue l'économie, le moral, etc. Il y a quelque chose sur lequel on est d'accord, c'est qu'il ne faut pas rater le déconfinement.
C'est ça.
On a déjà raté un déconfinement, on l'a raté. Il ne faut pas rater le deuxième. Il faut qu'on puisse mettre en place dans les écoles tout de suite un vrai protocole sanitaire, pas l'espèce de truc machin qu'on a en ce moment et qui provoque une grève. Hein. Je prends toujours mon exemple dans l'école où je suis, mais voilà, c'est dans l'école où je suis, il n'y aura pas école mardi. Hein.
Voilà, ouais, l'appel à la grève sanitaire. On en parlera à 19h15.
On a toujours besoin d'aller à l'école.
Bien sûr, mais toujours.
Mes enfants sont parfois plus au fait que moi. Mais il y a une grève mardi et l'école est terminée mardi. Dans notre école, il n'y aura pas de professeurs pour des raisons sanitaires. Donc il y a quand même un sujet, quoi. Il faut rassurer les gens sur le fait qu'on a une stratégie de déconfinement. Laetitia a raison. Il faut organiser les choses parce que sinon ça va être épouvantable. On va se confiner tous les 15 jours.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Laetitia. Le stop and go, si vous voulez, jusqu'au vaccin, jusqu'à cet été. Alors moi, ce qui m'effraie, c'est qu'on ne pense cette crise qu'en termes sanitaires, c'est normal, on est dans l'urgence, et économique. Mais quid du social ? Quid de la psychologie ? Enfin, le moral des Français est au plus bas. On n'a jamais enregistré des chiffres aussi bas. Et ça, Wendy, vous savez que pour l'avenir d'une nation, et je suis un peu grandiloquente, mais je le pense vraiment, c'est capital. Donc essayons aussi un tout petit peu d'avoir un champ de vision et d'analyse plus large.
Ouais, on vous a mis un petit verre de champagne, juste comme ça.
C'est pour très gentil.
Pour symbole. Avec modération. Laetitia Groupin, merci. Philippe Moreau-Chevrolet, François Clos, c'était le débat des grandes voix. Je vous retrouve, chers amis, samedi et dimanche prochain. Dans un instant, l'info.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.